Maintenant, on aimerait passer à notre concert qui va nous présenter notre invité spécial, Yolanda McLean, donc vice-présidente sur le Conseil exécutif national. Bonsoir, consoeurs et confrères. Gloria Mills est la directrice et l'organisatrice nationale sur les questions d'égalité pour Unison, le plus gros et important syndicat du Royaume-Uni. Elle a été élue présidente du Congrès des syndicats TUC en septembre 2005 et a été présidente et vice-présidente en 2005 jusqu'à 2007. Elle a marqué l'histoire lorsqu'elle est devenue la première femme noire à être élue présidente de TUC. En tant que présidente, Gloria a présidé le Conseil général, l'exécutif, les comités et le Congrès du TUC. Gloria est présentement membre du groupe de la haute direction d'Unison et elle travaille comme agente principale et directrice nationale du mouvement syndical depuis plus de 20 ans. Gloria a occupé plusieurs postes supérieurs au sein de syndicats des services publics d'Unison et du NUP en tant que directrice de l'égalité des chances, organisatrice nationale et secrétaire nationale responsable de la direction de l'égalité des chances d'Unison, des programmes, des projets et des campagnes stratégiques sur les questions d'égalité, d'emploi et de politique. Auparavant, elle a travaillé comme organisatrice régionale et dans le domaine de la publication juridique où elle a été présidente du Syndicat national des journalistes dans les syndicats de l'imprimerie, de la NATSOPA et de la SOGAT. Et elle a occupé plusieurs postes supérieurs élus. Gloria a une maîtrise en administration des affaires et, à titre professionnel, elle est membre de Chartered Institute of Personal Development, Institut agréé du personnel et du développement. Et du Chartered Management Institute, Institut agréé de gestion. Et elle est aussi membre du Editorial Advisory Board et Equal Opportunities Review, qui est un comité consultatif de rédaction sur l'examen de l'égalité des chances, du Employment Appeal Tribunal, qui est un tribunal d'appel en matière d'emploi. Elle a écrit divers articles sur l'égalité, l'emploi et le racisme institutionnel. Et en 2005, Gloria a reçu le titre de commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique pour service rendu en matière de l'égalité des chances dans le cadre des honneurs du Nouvel An de la Reine. Et en 2006, elle a reçu un doctorat honorifique en droit de l'Université de Staffordshire. Consoeurs, confrères, c'est vraiment un privilège, un honneur d'accueillir Sister Gloria Mills. Merci Yolanda pour cette présentation. J'aimerais remercier Paul, votre président national, aussi remercier Maureen, Lucy et toutes les autres et vous aussi, vous toutes, pour avoir organisé cette conférence. J'aimerais vous dire, j'ai écouté la présentation que vous avez faite sur moi, puis j'écoute ça et je me dis, est-ce que c'est moi ça? Parce que je dois vous dire que moi, j'ai commencé à travailler dans un milieu de travail tout à fait ordinaire. C'était dans dans une imprimerie de publication en droit. Ça fait quoi? Presque 30 ans. Mais c'est 28 ans au juste. Alors, je dis, je suis dans le milieu syndical depuis 20 ans plutôt que de dire 30 ans. Même si j'ai commencé comme membre de mon syndicat, j'ai d'ailleurs assisté à ma première réunion syndicale à peu près 2 mois après avoir commencé mon boulot. Et là, j'ai posé une question. Et c'était une question qui me tenait beaucoup à cœur parce que j'aimais pas du tout la façon qu'on traitait les femmes. D'ailleurs, je comprenais pas pourquoi c'était beaucoup plus facile si vous étiez un homme d'appeler par téléphone pour vous plaindre d'un problème, par exemple. Vous étiez en retard parce que vous avez eu une crevaison. Bon, ben, ça, c'était pas considéré un problème. Mais si vous aviez un problème de service de garde à l'enfance, votre enfant était malade, bon, vous deviez appeler et dire, bon, mon enfant est malade. Mais semble-t-il, c'est plus facile pour un homme de téléphoner et dire, je vais être en retard ou j'arriverai pas au boulot parce que j'ai une crevaison. Par contre, les femmes qui devaient tout expliquer en long et en large parce que leur enfant était malade. Et j'ai tout de suite compris que le milieu du travail était pas, il n'y avait pas d'égalité entre hommes et femmes, puis qu'il fallait vraiment changer cela. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. C'est un privilège, c'est un honneur. Je suis vraiment très contente d'être ici à cette conférence nationale sur les négociations pour l'égalité des femmes. Bon, il y a au Royaume-Uni, on travaille aussi sur des enjeux de conditions de la femme et aussi des enjeux de négociation. J'aimerais vous parler un peu des syndicats chez nous, les progrès qu'on a faits vis-à-vis notre approche envers la négociation, mais encore plus important, j'aimerais vous parler d'un enjeu que moi j'ai trouvé était vraiment, c'était reconnaître la différence entre les femmes, un groupe majoritaire qui a beaucoup d'influence, et le groupe majoritaire qui a su utiliser ce pouvoir pour changer la culture syndicale et changer l'agenda syndical. Alors, j'aimerais vous dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que Paul a dit. D'ailleurs, je pense que les femmes devraient rien abandonner et même avec la récession économique. Quand l'économie roulait très bien, les femmes souffraient, gagnaient 20. D'ailleurs, pendant que les banques se payaient des bonis et tout à fait, les femmes perdaient. C'est pas les femmes qui ont causé la crise du capitalisme et c'est pas les femmes qui devraient payer le prix de la crise économique mondiale. Alors, quand on s'est réunis, le 31 octobre 2008 à Turin, le leadership des syndicats européens, j'ai dit clairement que les 89 syndicats qui représentent 30 millions femmes syndicalistes, qu'il fallait envoyer un message aux leaders mondiaux. On devrait leur dire que la conséquence de la crise est égale pour femmes et hommes, sauf que ça, c'est pas vrai, parce que les plus vulnérables, c'est les femmes et les personnes avec déficience physique et mentale, les enfants. C'est eux qui sont les premières victimes. Et on a averti les leaders mondiaux que le risque de ne pas mettre l'accent sur la question des femmes allait donc causer encore pire pauvreté chez les femmes. Il fallait leur démontrer que la question de pauvreté, les femmes, les familles qui étaient de plus en plus endettées, de plus en plus pauvres, était un enjeu qu'il fallait examiner et qu'on voulait voir des mécanismes en place pour garantir que les femmes n'allaient pas être les premières victimes de cette crise économique mondiale. Donc, on a revendiqué toutes sortes de changements, de mesures qu'on voulait voir pour assurer que les femmes continuent à avoir de bonnes conditions de travail. Il fallait qu'on se batte non pas pour un salaire minimum, mais un salaire décent, parce que c'est vrai que dans plusieurs pays du monde, les travailleurs ont gagné un salaire minimum. Mais que font les employeurs? Ils font en sorte que le salaire minimum devienne le salaire ordinaire, normal. Et nous, on veut continuer à obtenir cette prime. Si on est membre d'un syndicat, on mérite mieux que le salaire minimum. On mérite un salaire décent qui nous permet de vivre bien. Et ça, c'est la différence entre une paye de pauvreté et un bas salaire et un salaire avec lequel on est capable de vivre. Et on voulait faire passer ce message parce que c'est avec son syndicat et avec cette prime syndicale qu'on est capable d'améliorer notre la situation de soi-même et de sa famille en société, puis qu'on est capable de s'améliorer et avoir une meilleure vie. Et nous, on voulait s'assurer que les syndicats étaient vraiment à la tête de cette campagne pour organiser les femmes et que les femmes soient aussi à la tête de toutes les campagnes qu'on mène. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu de mon syndicat. Unison est le plus grand syndicat des services publics. On représente plus de 1,3 million de travailleurs. 40% travaillent à temps partiel et 70% de tous nos membres, d'ailleurs c'est 74% de nos membres, plus de 1 million sont donc membres, sont des femmes. Et il y a 15 ans, on a fusionné 3 syndicats pour former Unison. Et les groupes de femmes qui luttaient pour les intérêts des femmes voulaient absolument en faire une priorité dans les campagnes des luttes. Les femmes en avaient marre de cette étiquette stéréotypée où les femmes étaient en majorité, 70% des membres, mais devaient dépendre sur 5 sièges réservés pour elles dans la structure du syndicat. On a trouvé que c'était inacceptable, cette approche d'avoir des sièges réservés pour femmes, parce que ce qui se passait, c'est que les femmes se retrouvaient dans une situation tout à fait marginalisée. On était incapable de mettre sur l'ordre du jour syndical l'équité salariale. Donc, on voulait changer l'image du mouvement syndical. On voulait faire en sorte que le mouvement syndical soit plus représentatif de la réalité des travailleurs. Et ce que nous avons trouvé important, c'est qu'il fallait trouver un mécanisme pour vraiment aider les femmes à se trouver dans des postes de pouvoir. Parce que les hommes avaient donc un pouvoir disproportionnel dans la structure syndicale. Donc, on voulait changer la façon de faire. On voulait mettre de côté l'ancien modèle où les syndicats ont commencé à parler d'égalité après que les femmes se sont plaintes, ont commencé à revendiquer un peu comme la catégorie, comme les handicapés physiques, les minorités visibles. Bon, si on se plaignait puis on disait qu'on faisait pas partie du système de prise de décision, bon, là, ils commençaient à nous écouter. Alors, on voulait mettre de côté l'ancienne approche et introduire un nouveau mécanisme. Et on voulait que cette nouvelle approche soit intégrée à la façon que fonctionne le syndicat. On voulait tout changer. On voulait changer l'agenda syndical, on voulait changer les structures et on voulait changer la culture du syndicat. Et les femmes voulaient aussi vraiment un changement dans la structure du pouvoir. Les hommes étaient en minorité, mais avaient tous les postes de pouvoir au sein du syndicat. Par contre, les femmes voulaient un équilibre plus juste dans cette distribution du pouvoir. On voulait partager le pouvoir avec les hommes. Et moi, en tant que féministe, j'ai dû dire et annoncer clairement que je n'haïssais pas les hommes. À ce moment-là, mon conjoint était dans la pièce et donc je n'haïssais pas les hommes, mais on voulait un système juste pour partager le pouvoir. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir une vraie justice et du féminisme en même temps. Et on a décidé qu'on voulait une approche intégrée. Et voilà ce qu'on a réussi à faire. On a intégré l'égalité dans nos statuts, dans nos structures et dans la façon que les décisions sont prises. Donc, si vous avez 48 % du pouvoir dans le syndicat, c'était le cas des femmes, c'était une belle occasion d'utiliser ce pouvoir pour réaliser vos projets. Parce que si vous prenez tout ce pourcentage de sièges, donc vous ne pouvez plus vous plaindre par la suite si les services de garde pour l'enfance n'étaient pas sur l'agenda ou si non, l'équilibre travail-famille n'était pas sur l'heure du jour. Vous n'aviez plus à vous plaindre, vous n'aviez plus à influencer les hommes pour qu'ils mettent ces enjeux sur l'ordre du jour. Vous aviez le pouvoir pour le faire vous-même. Alors, ça a été vraiment toute une lutte parce que nous avions beaucoup de débats parmi les femmes qui trouvaient que ce n'était pas très juste parce qu'elles avaient appris à comprendre que leur rôle à elles, c'était un rôle secondaire. Ben moi, ce n'était pas ça que j'avais appris. Vis-à-vis mes frères, pas du tout. Alors, ma mère, avait une liste de toutes les choses qu'il y avait à faire à la maison, puis mon frère devait laver la vaisselle autant que moi. Alors ma mère, ses idées à elle, c'est que tous ses enfants étaient traités de façon pareille. Et moi, je devais amener ces idées au sein de mon syndicat parce que je pense qu'on doit questionner ces perceptions stéréotypées sur les hommes, les femmes, tout ce que nous, on a vu quand on était des petites filles. Je pense que ça, c'est vraiment important. Une des choses que j'ai toujours compris, je ne sais pas si vous avez remarqué les enfants, les enfants, les petites filles, on leur disait toujours ouais, il faut que tu te comportes bien, sois sage. Mais les petits garçons pouvaient faire n'importe quoi. Les petits gars n'étaient jamais punis, on leur disait jamais rien. Je me rappelle une affiche qui disait les bonnes petites filles vont aller au ciel, mais les petits garçons, bon, c'est autre chose. Et moi, j'avais décidé, oui, que moi aussi, je voulais aller au paradis. En tout cas, dans mon cas, j'ai décidé que j'allais au paradis, mais je voulais aussi aller ailleurs. Alors, ça a été tout un défi de changer la norme, de changer le statu quo, parce que le statu quo n'a jamais desservi les intérêts des femmes. Ça n'a jamais aidé les femmes. Et la seule façon d'apporter des changements, c'est de accélérer le rythme de changement et de questionner la façon que les choses sont faites. Si les choses continuent du pareil au même, puis il n'y a rien qui change, alors à ce moment-là, il va falloir changer la façon de faire. Alors, il fallait voir comment apporter ces changements. Et c'est jamais facile. Et des fois, les gens ne sont pas tous d'accord sur comment apporter les changements. Mais la plus grande bataille qu'on avait, c'était vis-à-vis les femmes, que les femmes, oui, pouvaient exercer leur pouvoir et pouvaient le faire en partageant d'élaborer l'agenda avec les hommes et faire des gains qui incluaient les hommes et qui n'excluaient pas les hommes. Donc, c'est ça le message qu'il fallait faire passer. Alors, on avait cette approche intégrée, on incluait le droit d'être représenté à tous les niveaux de prise de décision, mais on n'allait pas s'offusquer avec cette idée de siège réservé. On voulait un mécanisme qui allait garantir aux femmes le même niveau de représentation qu'elles méritaient. Sur le comité national, 74% des membres sont femmes. Donc, sur le comité exécutif, il devait y avoir 74% de représentation de femmes. Et c'est ça qu'on a fait sur tous les comités. Je sais, bon, à l'époque, le magazine Cosmopolitan avait dit « La révolution féministe a commencé chez Unison, puis on ne sait pas comment ça va se terminer. » Mais en réalité, il ne s'agit pas de révolution, il s'agit d'égalité. Alors, nous avions cette structure de prise de décision. Nous avons vraiment le droit de siéger sur tous les comités égalité, comités lesbiennes, gays, transsexuels. Donc, il y avait un comité séparé pour les personnes avec handicap. Il y avait aussi un comité pour minorités visibles. Et dans le domaine de l'imprimerie, il fallait tout mettre par écrit. Parce que si vous ne mettiez pas les choses par écrit, vous n'allez pas avancer. Et moi, je n'allais pas passer tout mon temps donc à me disputer avec tout le monde pour recommencer à zéro et le dire « on a le droit à siéger sur des comités, on a le droit d'aller assister aux conférences ». Il faut inscrire tout ça dans les règles. Alors, dans un syndicat avec 1 million de femmes, j'avais du mal à comprendre qu'un homme allait quand même commencer à mettre en question tout ce que nous avons gagné. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Alors, il faut être vigilante et ceci de façon éternelle. Alors, c'était ça notre objectif. Alors, nous avons intégré nos structures. Le mécanisme, ce que nous allons utiliser, c'est l'approche fondée sur la proportionnalité. Donc, les femmes étaient représentées selon le pourcentage de femmes membres. Par exemple, si c'était 80% de femmes dans une telle et telle division ou tel secteur ou tel et tel domaine, ça allait une représentation basée sur ce 80%. Alors, c'était comme ça pour tous les comités, les secteurs, les divisions. Alors, par exemple, sur l'exécutif national, en plus d'avoir 74% de membres femmes, nous avions aussi 13 sièges garantis pour les femmes à temps partiel qui gagnaient un bas salaire pour qu'elles aussi aient leur voix dans la prise de décision. Et de plus, tous les quatre groupes d'égalité étaient aussi représentés. Donc, les femmes noires, les membres lesbiennes, gays, les membres LGBT et les personnes handicapées. Nous avions donc l'espace, la capacité pour pouvoir se réunir. Il fallait qu'on bâtisse notre confiance. Et parce que dans le syndicat, il y avait beaucoup de travail qu'ils faisaient pour encourager les femmes à prendre place dans leur syndicat. Donc, il s'agissait de mécanismes qui nous ont aidés à façonner cette vision dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire la transformation de l'agenda du syndicat, la culture du syndicat, la structure du syndicat, mais c'était aussi de vraiment changer le fait que auparavant les hommes avaient le pouvoir. Alors, c'était par le truchement des comités où les femmes avaient leur représentation qu'on pouvait garantir que les enjeux qui étaient importants pour les femmes devenaient une priorité. Mais c'était aussi un pouvoir au niveau du vote. Une des choses que j'ai toujours compris en tant que minorité, c'est que vous pouvez avoir une voix dans une démocratie, mais à moins d'utiliser votre vote, vous n'allez jamais changer les décisions, à moins qu'il y ait une volonté politique de changer les décisions. Donc, les femmes devaient reconnaître que même si elle représentant 1 million de membres, ça, c'était une chose, mais l'important, c'était de voter. Et donc, c'était important de voter pour les personnes qui allaient défendre vos revendications. Les femmes ont très vite compris que les politiques syndicales et la machinerie syndicale est importante à comprendre. Et il m'appelait au téléphone, il me disait « Gloria, on a beaucoup de gens qui nous appellent pour nous dire qu'ils veulent se présenter. Alors, est-ce qu'on devrait voter pour telle et telle personne? » Alors, je leur disais « C'est à vous de décider. C'est à vous de voir si la personne qui se présente va être responsable et redevable et va faire la promotion des enjeux qui étaient importants pour les femmes. » Bon, là, je vous parle d'il y a 15 ans. Mais je peux vous dire que d'un jour à l'autre, toutes les revendications en matière de négociation ont changé. La fusion s'est faite en 1993. En 1997, le salaire égal. Bon, la première entente que mon syndicat a signée au niveau de la municipalité pour 1,4 million de membres, c'était une entente sur l'équité salariale. Et ça, c'était vraiment important. Alors, en moins de 4 ans, donc les négociations sur l'équité salariale était devenue réalité. Ce n'était plus un rêve, c'était la réalité. Et dans le secteur de la santé, le syndicat a négocié une entente cadre sur l'équité salariale. Et donc, ça a mis une fin à l'inéquité salariale dans le secteur de la santé. Alors, je vous raconte 2 exemples de comment nous avons réussi à changer l'agenda, nous avons réussi à changer la structure syndicale et on veut bien sûr continuer à changer la culture. La culture, c'est très difficile à changer. Mais il fallait faire en sorte que les personnes qui exerçaient le pouvoir au nom des femmes n'étaient pas seulement redevables vis-à-vis leurs membres immédiats, c'est-à-dire la majorité des membres à l'époque, dont 1 million de femmes, mais c'était aussi redevable en général. Et c'était par le truchement du vote qu'on avait ces garanties. Alors, les femmes ont commencé à s'approprier de l'agenda en matière de négociation. C'est pas seulement de... Donc, c'est comme ça qu'ils ont changé leur situation et la situation des femmes en société. C'était en utilisant ce pouvoir politique et le fait qu'elles avaient le vote qu'elles ont pu changer les choses et ont pu promouvoir une solidarité internationale. Elles ont pu vraiment revendiquer des améliorations pour les femmes.
Alors, ce qu'on a dû faire, c'est, en plus de contester les stéréotypages, devions donner aux femmes la confiance, non seulement s'opposer au statu quo, mais il faudrait trouver de nouveaux modèles pour faire des progrès. Devions également démontrer que les femmes étaient vigilantes et que donc à l'égard du progrès. Donc, il fallait non seulement s'opposer au statu quo, mais il fallait également donc élaborer les stratégies et les mécanismes nécessaires pour apporter le changement. Donc, à l'égard de l'équité d'emploi, nous avons élaboré une stratégie d'éduquer, de négocier et d'établir des litiges. Donc, nous avons sensibilisé les femmes et les hommes. Bon, il y avait beaucoup d'hommes qui négociaient. Donc, ils ont fait un excellent travail pour assurer l'équité salariale pour un travail équivalent. Et dans cet effort de sensibilisation sur les mécanismes de la négociation, parce qu'on croyait toujours que les négociations, ça c'était un peu mystérieux, c'était difficile, c'était complexe. Mais moi, je suis devenue négociatrice avant de m'attaquer à la question d'équité salariale. En fait, je me suis attaqué seulement à l'équité salariale en 1988 parce que le mouvement syndical donc subissait tellement de pression sous le règne de Margaret Thatcher. On ne pouvait rien gagner. On avait 9 comités législatifs au sein du syndicat. Il y avait beaucoup de lois antisyndicales. Et la seule façon de soutenir la croissance de notre syndicat et de maintenir notre pertinence pour nos membres, c'était par le biais du programme d'équité. Et c'est pour ça qu'on s'est concentré sur l'équité salariale, sur les garderies, sur l'équilibre travail-famille. C'est dans ces domaines que nous avons assuré une meilleure croissance de notre syndicat. Nous avons fait de petits progrès. Donc, il s'agissait donc de rendre le syndicat pertinent pour les membres, mais il fallait également améliorer la situation des femmes dans leur milieu de travail. Donc, à l'égard de l'équité salariale, nous avons négocié de grandes conventions. Nous avons établi des litiges pour plus de 40 000 cas. Et au cours de l'année dernière, par exemple, nous avons formé plus de 5 000 militants, militantes sur des questions d'équité. Et 6 000 personnes ont été formées en matière d'équité salariale. Cela démontre l'importance de devenir pertinent. Et la raison pour laquelle... Et je devrais dire que à la suite de ça, 3 sur 4 de nos principaux négociateurs sont des femmes, principales négociatrices. Alors, donc, nous avons passé d'une situation où les hommes avaient toujours dominé la table de négociation. Ils étaient toujours les principaux négociateurs, surtout à l'époque où je me suis joint au syndicat, mais à une situation où il est donc tout à fait normal qu'une femme soit la principale négociatrice. Je pense que cela est un grand signe de progrès que nous avons accompli. Et c'est une des principales raisons pour lesquelles nous avons eu des succès. Mais ce que nous avons fait également, c'est d'assurer la succession. Donc, dans l'Union européenne, nous faisons partie des grands syndicats européens. Et donc, dans le contexte européen, donc, sur le plan du leadership syndical, nous savons que dans un bon nombre de syndicats, les femmes ou la représentation des femmes dans les premiers postes est très faible. Donc, il y a 65, sur 65 confédérations, il y a des leaders, des chefs femmes dans seulement 4 syndicats. Donc, quand je parle de chef, je parle de président, présidente. Donc, et donc 27 sur 75 vice-présidents des femmes et 4 sur 44 sont secrétaires, des femmes qui sont secrétaires généraux. Et donc les femmes donc, ne réussissent pas bien sur le plan du leadership donc, dans le contexte européen. Bon, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y avait donc il y avait un écart entre la structure des femmes et les structures de négociation collective. Donc je pense que ça vous fait tout à fait brillant sur le lien entre la structure des femmes et la structure de la négociation collective, parce que c'est le manque de lien entre la structure des femmes et la structure de négociation collective qui élimine les questions qui intéressent les femmes de les négociations. Ensuite, l'autre. Donc, sur le plan de la sensibilisation également, nous avons tenté d'habiliter les femmes. Nous voulons nous assurer que les femmes étaient habilitées économiquement, mais également politiquement. Donc, c'est une stratégie double sur le plan de l'habilitation. Et nous avons dû donc voir comment sensibiliser les femmes à cet égard. Nous avons dû établir une distinction, cependant. Nous avons parlé de la distinction entre l'influence et le pouvoir. Donc, dans le cas de l'influence, évidemment, ce sont d'autres qui font le changement. Mais dans le cas de pouvoir, nous avons le pouvoir d'apporter les changements qui s'imposent. Et je pense que le président Obama lui-même a reconnu cela, qu'il était très important d'établir une distinction entre l'influence et le pouvoir. Moi, je crois qu'ensemble, les femmes constituent une force irrésistible pour le changement. Je pense que nous pouvons apporter les changements que nous cherchons et je pense que nous pouvons vivre ces changements. Je crois que nous pouvons commencer par établir les fondements aujourd'hui et de construire l'héritage que nous passerons aux prochaines générations. Je pense qu'il est important de parler de cet héritage parce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui qui déterminera ce que nos enfants et des générations futures recevront. Donc, il est important de voir comment le pouvoir fonctionne. Au Royaume-Uni, nous avons fait une enquête sur la façon d'obtenir le pouvoir politique, non seulement dans les syndicats, mais également au sein de la société dans son ensemble. Et nous avons construit un indice de pouvoir d'influence. Donc nous essayons de voir si les femmes ont de l'influence de pouvoir et nous avons étudié donc combien de temps ça prend pour sensibiliser les gens à la question d'équité. Et il faut dire que le progrès, concernant les questions féminines, donc avance à pas de tortue. Donc on dit qu'une tortue prendrait peut-être un escargot, en fait, elle parle d'un escargot qui prendrait 232 années pour franchir le mur de Chine. Donc, si on avance à ce rythme-là, donc ça va prendre 232 ans pour atteindre les objectifs féministes. La réalité, c'est que le progrès donc avance à pas de tortue ou à pas d'escargot. Donc, mais on peut pas attendre et il faut faire preuve d'impatience pour l'égalité. Et je crois fermement que nous devons nous assurer que le changement s'opère pendant notre vie. Moi, j'ai jamais pensé que lorsque j'ai adhéré au syndicat en 1978 que je deviendrais présidente du CTC. Donc, mais je n'ai jamais cédé. Je pense qu'il ne faut pas toujours être accommodant. Alors, il y a des gens qui croient que je n'ai pas de sens de l'humour. J'ai dit à mes collègues que je n'ai pas de charisme, mais en réalité, il faut parfois être très ferme et dire non. Je ne suis pas prêt à céder. Et parce qu'on s'attend à ce que les femmes cèdent. On s'attend à ce que les femmes ne demanderaient pas des augmentations et un salaire équitable pour le travail qu'elles font. Pourquoi agir autrement? Moi, une des leçons que j'ai apprises, c'est que les hommes insistent sur un salaire équitable pour l'emploi parce qu'ils savent. Ils savent que le salaire est donc détermine la pension qu'on obtiendra. Et si vous gagnez un faible revenu, à ce moment-là, vous aboutissez avec une pension de misère. La plupart du temps, les femmes donc vivent sans pension. Il y a seulement 12 % des femmes au Royaume-Uni qui ont une telle pension de l'État. Seulement 12 % et la génération de mes parents. Pendant la génération de mes parents, il y avait une pension pour la femme mariée. Ça coûtait quelques pence pour payer cela, mais elle recevait 18 pence. Et à 60 ans, elle devait attendre 5 ans jusqu'à ce que la retraite de la mère pour recevoir la moitié de sa pension. Ça, c'est une injustice. Et ça ne devrait pas arriver, mais ça, c'est la réalité. Et je crois que les femmes doivent s'assurer que les jeunes femmes comprennent qu'elles doivent se battre pour de bons salaires, de bonnes pensions et de bonnes carrières. Oui, on ne devrait pas se sentir coupable d'exiger ce qui est juste. Donc, le programme de négociation collective du syndicat doit se fonder sur l'égalité, non seulement à la maison, mais également au milieu de travail. Donc, il faut assurer non seulement l'équité pour les hommes pour les femmes et les hommes. Moi, j'ai dit aux hommes qui ne m'ont pas soutenu en 1982, lorsque je voulais demander l'équité salariale donc dans le syndicat de l'imprimerie. Je disais, c'est pas tout simplement. Donc, si le salaire des femmes est plus faible que ceux des hommes, cela maintient les salaires des hommes à la femme. Donc, en fait, en réduisant le salaire des femmes, on réduit également le salaire des hommes. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui travaillent pour des salaires de misère. Et et les gens donc se fient aux avantages sociaux, aux déductions fiscales, donc ces gens-là donc juges qui sont compensés pour leur salaire de misère en ayant des avantages sociaux. Donc, je pense qu'il faudrait établir un partenariat entre les hommes et les femmes, un partenariat qui constituerait une alliance stratégique où on travaille ensemble, parce que nous avons besoin également de nous assurer que dans cette crise économique actuelle, il faut dire que les choses vont empirer avant de s'améliorer. J'ai lu hier que les États-Unis et le Japon et l'Europe donc entrent maintenant une période de récession. Le chômage augmente plus rapidement qu'à tout autre moment. Et au Royaume-Uni, le chômage des femmes donc augmente le double de ceux des hommes. Donc, nous avons marché du travail très précaire et cela aura un impact négatif sur les salaires. Et Paul avait raison lorsqu'il a parlé de l'approche à la négociation, parce qu'un grand nombre d'entreprises maintenant cherchent donc des gels salariaux à cause de la crise. Donc, il demande aux travailleurs de choisir entre sécurité d'emploi et aucun salaire ou aucun dépôt, des faibles salaires et des compétitions, etc. Donc, et c'est également le fait que l'écart salarial entre les sexes demeure. Et dans bien des cas, dans certains cas, certaines entreprises demandent même ou exigent même une réduction salariale de 25 %. Donc, en tant que syndiqués, nous devons nous assurer que nos membres, à tous les niveaux, plus particulièrement les membres qui négocient, continuent à se tenir au courant de la situation financière de leur employeur. Donc, l'ancien secrétaire général, Robin Pickersteel, puis j'ai travaillé pour lui pendant 10 ans, il m'a dit, bon, voilà, les pensions constituent une des questions les plus importantes pour les femmes dans votre génération. Il a dit que c'est une question très importante, un enjeu très important pour les femmes. Et elles devraient comprendre quel impact cet enjeu aura sur elles. Et à cause de cela, j'ai fait une maîtrise en stratégie financière pour voir pour comprendre les finances des entreprises, pour voir quels étaient les ratios, quelle était la performance des compagnies. Et bon, il y a des postes budgétaires qui sont sur le bilan, d'autres non. Et on ne sait pas ce qui se passe avec notre caisse de retraite. Et nous devons nous intéresser au compte, de la comptabilité de la compagnie. Nous devons lire les notes à la fin des bilans. Porter une attention aux lois concernant ces entreprises, s'assurer qu'on maintient nos pensions. Parce que si on ne fait pas cela en tant que syndiqué, nous allons aboutir à notre tête ne sachant pas si effectivement on aura une pension. C'est important de prendre cela en compte. C'est un des enjeux les plus importants pour nous. Il est important que nous choisissions de faire ce travail. Il faut qu'un plus grand nombre de travailleurs et de travailleuses deviennent des syndics ou des fiduciaires de caisses de retraite pour savoir ce qui se passe et d'empêcher des entreprises d'utiliser nos fonds pour leur propre fin. Donc, il est important qu'on étudie cette question. Et ensuite, si nous ne faisons pas cela, il y a des familles à l'heure actuelle qui doivent choisir entre pouvoir manger et d'envoyer les enfants aux études, parce que il y a une crise des prix alimentaires, des prix des carburants. Donc, pour connaître que les choses vont s'empirer avant de s'améliorer. Donc, il est important que nous prenions ces enjeux en compte. Donc, les services publics de qualité dépendent de la situation économique. Il faut également comprendre que si les gouvernements donc utilisent les fonds des contribuables pour sauver les entreprises, bon, ça veut dire qu'il y aura moins de fonds pour affecter aux services publics. Ce sera plus difficile de financer les services publics et de financer donc l'achat de logements, etc. Donc, il faut donc être de bien surveiller les activités des gouvernements sur le plan des départs de sauvetage, parce que il faut. Je pense que si nous travaillons ensemble, cela constitue notre force. Il est très important que nous cherchions à atteindre nos objectifs fondamentaux, non seulement sur le plan de l'équité salariale, mais également que dans cette période de récession, que l'équité salariale donc, fasse partie de nos négociations. Que la justice salariale pour les femmes doit continuer à faire partie de nos négociations. Alors, je pense que je devrais peut-être m'arrêter parce que j'ai tendance à poursuivre tout le temps, mais je pense que l'ennemi, c'est qu'on a constaté qu'on a dit que la mondialisation allait donc nous bénéficier, mais moi, je n'ai pas vu les avantages ou les bénéfices de la mondialisation. Alors, ce que j'ai constaté, c'est que l'intégration mondiale a aidé les banquiers à réunir les économies de grand nombre de pays. En même temps, c'est ce que l'intégration mondiale a produit. Nous savons également que la dernière crise financière en 1929 et la Grande Dépression, que c'était les travailleurs qui ont payé le prix des pertes d'emploi, donc des taux de chômage supérieurs à 30%. Et donc, c'est une chute catastrophique des salaires et des conditions de vie. Et cela donc, a créé donc, une grande pauvreté dans le monde. Et ce dont on a besoin, c'est des alliances très fortes dans le monde entier. Nous devons nous assurer que les travailleurs et les travailleuses du monde sont unis et qu'ils soient sensibles à cette crise. Et donc, il faut une coordination plus efficace sur les négociations salariales. Nous devons nous assurer que nos membres sont bien formés en négociation et qu'ils connaissent bien en tenant compte des bilans des compagnies. Nous assurer que les policiers sont imputables pour tous les fonds qu'ils dépensent en notre nom lorsqu'ils tentent de contrer la crise du capitalisme. Et il est également tellement important de reconnaître qu'au cours des 10 dernières années, surtout en Europe, il y a donc une grande croissance de la participation active des femmes et que les femmes jouent un rôle important sur donc, l'avenir de l'Europe et plus particulièrement au Royaume-Uni. Donc, on a louer l'économie de la Royaume-Uni pour son succès parce qu'on a constaté qu'un grand nombre de femmes ont joint les rangs de la population active et 50% donc de cette population est constituée de femmes. Donc les femmes jouent un rôle important non seulement à la prospérité du Royaume-Uni mais également à la prospérité de l'Europe. Et il y a un nouveau rapport qui est sorti qui démontre que ce sont les femmes qui maintiennent les syndicats en Europe. Et donc, le nombre de membres, de femmes, continue d'augmenter. Et donc, les femmes ont besoin des syndicats, les syndicats ont besoin de femmes. Donc, en tant que syndiqué, vous recevez une prime sur le plan de votre salaire, de vos avantages sociaux, des droits de retraite. Et les avantages de la syndicalisation sont énormes par rapport à la non-syndicalisation. Moi, je dis cela à beaucoup de personnes qui ne voient pas la valeur de syndicat. Je dis, ben voilà, les syndicats donc sont les moteurs de progrès social et de la justice. Moi, j'ai lu dans l'économiste la Chine, l'Inde et l'Internet. La croissance économique est fondée sur les femmes. C'est ce que cet article disait. Mais il concluait en disant, toutefois, si les femmes doivent être moteurs de l'économie mondiale, c'est seulement juste que les hommes fassent plus de ménage. Alors, je vais simplement conclure en disant que si les femmes sont le moteur de l'économie mondiale, pourquoi ne sont-elles pas le moteur dans les syndicats, dans la société? Comme j'ai dit auparavant, les femmes en Europe constituent 42% des effectifs des syndicats, mais il y en a très peu qui sont des positions d'autorité. Donc, ce qu'on doit assurer, c'est que les syndicats continuent à valoriser les femmes et que les femmes continuent à valoriser les syndicats, parce que c'est en travaillant ensemble dans votre syndicat que vous pourrez atteindre tous vos objectifs. Je peux vous dire maintenant que le syndicat a fait tellement pour moi qu'est-ce que le syndicat fait pour moi? Moi, je dis, ben, qu'est-ce que vous faites pour votre syndicat? Alors, la force de syndicat dépend de votre force dans votre milieu de travail. Nous devons nous assurer que nous devons recruter tous les non-syndiqués. C'est par le biais de cette unité, de cette force collective que nous pouvons négocier, à partir d'une position de pouvoir. C'est ce que nous devons faire. Nous devons sensibiliser les femmes à ce pouvoir qu'effectivement, elles sont puissantes. Et si elles sont puissantes, leur syndicat est puissant. Et si leur syndicat est puissant, à ce moment, leurs enfants auront un meilleur avenir. Et c'est tellement important. Et également, leurs familles auront un meilleur avenir également. La raison pour laquelle j'ai dit cela, c'est que c'est parce que l'équation de pouvoir est très importante. Parce que là, si les choses vont mal à ce moment, ce sont les femmes qui sont blâmées. Si les enfants ont des problèmes, ce sont les femmes qui sont blâmées. S'il y a un problème dans la société, ce sont les femmes qui sont blâmées. Et en mettant, on a une situation où en Europe, les femmes constituent une société sandwich. Donc, elles travaillent, elles s'occupent de leurs enfants et également, elles s'occupent de leurs parents. Donc, on parle d'une génération de sandwich parce que nos parents, à cause des progrès de la médecine, que que les hommes et les femmes vivent plus longtemps. Mais nous devons également les soigner, s'en occuper. Et les femmes dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, donc doivent s'occuper de leurs enfants, mais également de leurs parents âgés et d'autres également. Donc, il est important de prendre en compte ce que disait l'économiste, qu'il faudrait que les hommes acceptent plus de responsabilités à la maison parce que les femmes ne peuvent pas donc s'occuper de toutes ces responsabilités. Donc, je dois dire et là, j'ai lu cette citation lorsqu'il y avait 12 ans, c'est que le pouvoir sans responsabilité. Et depuis plus longtemps, il y a eu un déséquilibre entre le plan du pouvoir donc chez les femmes. Et il y a un déséquilibre entre les femmes ont eu les responsabilités mais non le pouvoir. Donc il faut que les hommes soient imputables et responsables. Et donc il s'agit donc de partager le pouvoir entre les hommes et les femmes, s'assurer que on puisse opérer des changements dans la société. Pour le bien-être de tous. Merci beaucoup.